Bonjour Alex.
Bonjour Alexandre.
Super heureux de te recevoir sur cet épisode de Stackcast. Écoute, tu connais le principe, t'as écouté un peu les autres?
Ouais, j'ai écouté pensant qu'un seul épisode.
Mais ah ouais, lequel?
Le numéro 2, alors j'ai oublié son nom.
Avec Jean-Baptiste Ronsin.
Exactement.
Ex-Airbnb, ouais, qui est chez Giffen aujourd'hui.
Ouais, j'ai un peu fait en fonction de mon temps d'écoute, mais ouais. c'était très intéressant.
Bon, bah cool. Donc l'idée, c'est vraiment de recommander des outils et des méthodes que tu pratiques au quotidien pour être hyper concret. Et tous ceux qui nous écoutent veulent avoir du concret. On va étudier ton parcours. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Avec plaisir.
Qui es-tu?
Donc je suis Alex Olivet, j'ai 36 ans, je commence à être un peu vieux. Je vais faire rapide, mais en gros, j'ai un parcours. J'ai fait une école de commerce, j'ai bossé quelques années dans une boîte très corporate, tout ce qui est plus classique. Mm-hmm. Et en 2010, j'ai décidé de m'orienter vers les startups. C'était pas encore à la mode à l'époque. Et j'ai monté différentes boîtes. J'ai monté une boîte qui s'appelait TripXP, qui était dans le domaine. En gros, ce que Airbnb fait aujourd'hui avec les expériences.
Ah oui, d'accord.
Donc, on a monté ça en 2011 avec des amis. Après, j'ai testé différents petits projets. On pourra peut-être en reparler, mais plus tard, je ne vais pas m'apesantir dessus. J'ai lancé une conférence qui s'appelle B2B Rocks, qui est une conférence énorme, dédiée aux startups, aux startups B2B.
Tu l'avais lancé seul, ça ou...
Ouais, je l'avais lancé seul en 2013 et je l'ai revendu en début 2018 à Accéléo, qui est un fonds d'investissement et un accélérateur. Mmh. Et puis, j'ai fait un petit passage chez eFounders aussi en 2014-2015.
Au début d'eFounders
ils étaient déjà un petit peu lancés. Maintenant, il y a eu pas mal de boîtes qui fondaient depuis. Et puis sinon, depuis ce temps-là, j'avais la casquette un peu B2B Rocks. Je faisais pas mal de conseils. Et en parallèle de ça, j'ai développé une solution qui s'appelle Collect. Et là, depuis cet été, j'ai décidé de me mettre full-time sur Collect pour pouvoir enfin le lancer.
Alors, qu'est-ce que c'est Collect?
Alors, Collect, c'est une solution qui permet de récupérer des documents et d'automatiser la relance pour récupérer des documents. Je vous donne un exemple. On va dire, dans toutes les boîtes, tu as besoin d'embaucher des salariés. Tu as ton logiciel de recrutement type Workable, par exemple, avec lequel tu vas faire tout ton process de recrutement et arriver à la dernière étape, c'est-à-dire la personne a accepté ton offre, il faut commencer à passer à la partie administrative, à savoir récupérer la pièce d'identité, le justificatif de domicile et le RIB pour pouvoir le payer à la fin du mois. Et donc, cette partie-là, tu peux la faire en quelques minutes avec Collect. Tu as juste besoin de mettre une fois ce que tu as besoin de récupérer. Tu vas programmer une séquence d'emails. Après, à chaque fois que tu auras un nouveau salarié, ça va lui envoyer des emails, lui demandant d'uploader ses pièces.
C'est très axé RH?
Non, ça peut être
c'est
tout.
Large, c'est
large. Là, je t'ai donné un exemple. Mais ça peut vraiment être de tout. Ça peut être onboarding aussi de clients. Ça peut être... moi, par exemple, j'ai un use case qui me tient à cœur, c'est celui des organisateurs d'événements. Tous les organisateurs d'événements ont besoin de récupérer des infos de la part de leurs speakers quelques mois avant l'événement, ont besoin de récupérer quelques jours avant l'événement, voire le jour même, la presse en question, pour qu'elle soit projetée sur scène. Et donc, c'est le genre de choses qu'on peut faire hyper facilement. Et puis, l'avantage de Collect, c'est qu'il y a une API qui est assez fournie et une intégration avec Zapier. Derrière, tu peux vraiment l'automatiser avec plein d'autres choses.
Donc, tu es dessus à 100%?
Oui, je suis dessus à 100%. Je suis solo founder. Donc,
intéressant.
C'est moi qui ai développé la solution. J'ai bossé avec des freelances à certains moments et sur certaines parties. Je pense que j'ai fait mes premières lignes de code à 16 ans ou 16 ou 17 ans. Alors, je ne me qualifie pas comme
un self-made codeur.
Et puis il y a des périodes où j'ai arrêté. Là, j'ai repris il y a presque 5-6 ans. Donc je commence à retrouver un bon niveau.
Des bonnes bases. Ouais.
Voilà.
Tu veux lever un peu ou pas?
Pas tout de suite.
D'accord.
Pour la petite histoire, j'ai travaillé quelques mois avec un fonds d'investissement qui s'appelle Serena. Et puis après, au travers de mes différentes expériences, je connais pas mal de VC. En fait, j'ai pas forcément envie parce que c'est pas la même façon de monter une boîte en fait, entre être bootstrappé comme on dit ou indie hacker, indie maker, ouais. comme on dit maintenant, et monter une boîte funded, quoi. Monter une boîte funded, ça veut dire que tu as envie de...
Tu as envie qu'il y ait du chiffre d'affaires organique qui se génère.
Moi, j'ai envie qu'il y ait du chiffre d'affaires organique. De l'autre côté, tu as surtout envie d'avoir très, très vite de la croissance et de l'attraction. Ouais, ouais. Et les enjeux ne sont pas forcément les mêmes. Moi, par exemple, à la limite, si demain, j'arrive à faire en sorte que Collect se développe très, très bien, limite, tout automatisé sans avoir de salarié, ça me va.
Bah, oui. Company of one.
Ouais, mais c'est pas du tout le cas de la plupart des startups qu'on connaît, où d'un seul coup, faut recruter pas mal de monde et tout. Et en fait, en tant que founder, enfin surtout la raison du coup qu'il y a derrière, alors l'ambition, elle peut rester la même. Mm-hmm. En revanche, en tant que founder, si tu lèves de l'argent, ton rôle plutôt dans la boîte,
métier différent, ouais.
Très très vite, ça va être ton rôle principal, ça va être de recruter et de coacher les gens que tu as recrutés, et de gérer aussi un peu tes invests et tout. Perso, je suis quelqu'un qui j'aime bien le produit, j'aime bien même le contact client.
Oui.
Et c'est des choses en fait.
Pas envie de perdre.
Ouais, que je perdrais un peu trop vite, quoi. Ouais. Donc, pour l'instant, j'ai.
Après, il y a un sujet aussi sur le côté comment trouver un co-founder ou comment s'associer. Enfin, c'est compliqué. Enfin, au-delà du fait que c'est compliqué de trouver la bonne personne, c'est juste compliqué de trouver quelqu'un tout court. Parce que des outils ou des. Parce que ça vient de dire qu'il faut faire des meet-up, mais à part un outil qui s'appelle, moi, enfin que je connais un peu de loin, qui s'appelle Co-Founders Lab, qui est un peu processé, c'est quand même hyper chaud.
Ouais, pour de vrai, je crois pas. Alors, j'ai des contre-exemples, mais je crois pas trop à la rencontre forcée.
Ouais,
forcée, entre guillemets, de cette façon-là. Après, dans mon entourage, et la question s'est posée, j'ai des contacts avec lesquels. Je m'étais posé la question de m'associer. Je ne dis pas que je m'associerai jamais. Mmh. Après, c'est juste que jusqu'à présent, je n'avais pas trouvé la bonne personne pour le faire. Et puis aussi, parce que, une fois de plus, c'est quelque chose où je trouve du plaisir en fait, à le faire.
Ouais.
Enfin, le fait que j'ai plutôt un background business et moins tech, demain, si je devais m'associer, ce serait sans doute avec un profil tech. Et du coup, ça voudrait dire potentiellement qu'on m'enlève un peu mon bébé d'un point de vue produit. Et du coup, je ne le ferai pas avec tout le monde. Quoi. Mais bon, je ne dis pas, je vais pas dire que je ne bois cette eau-là, parce que ça pourrait être un jour le cas.
Ouais. Tu nous montres un peu sur ta home screen ce que tu as ?
Ouais.
Quel type d'app tu utilises ? Slide, elle revient à chaque fois.
Ouais, Slide revient à chaque fois. Je peux peut-être décrire un peu.
Vas-y.
Déjà, il y a une grande home screen avec pas mal de.
Et c'est un iPhone.
C'est un iPhone 11 Pro Max.
11 Pro Max, ok, d'accord. Il y a de quoi mettre des apps sur la home screen.
Il y a de quoi mettre des apps. Et j'avoue que je passe beaucoup de temps sur l'ordi, je suis derrière le téléphone.
D'accord.
Donc c'est pour ça que c'est un outil avec lequel je passe pas mal de temps. J'ai toute une section photo
dans
laquelle j'ai. Alors, je me sers principalement de l'app photo d'Apple.
Ouais,
c'est plus. Voilà, Insta ou autre.
Parce que t'aimes les photos ? Parce que tu.
J'en prends pas mal. Ouais, j'aime bien
prendre. Mais en plus, comme tu viens de l'événementiel, j'imagine que tu devais tout le temps être en train de.
J'en prends pas mal. Et, soit en mode photo pour que ce soit des belles photos et que ça me fasse des souvenirs. Il y a un autre truc, c'est que j'en m'en sers beaucoup. J'en prends pas mal sous forme de notes en fait, que je vais pas forcément classer derrière.
D'accord.
Mais par exemple, si je suis dans un magasin, que je vois un truc qui me plaît, je vais le prendre en photo.
Ouais.
Et parfois, je prends des photos que j'ai jamais publiées où que ce soit, mais que je garde en fait dans mon iPhone, parce que ça me permet de. Si là, tu me demandes, tiens, qu'est-ce que tu as fait, je sais pas, le 7 septembre.
Ouais.
Alors, soit dans mon agenda, si j'ai pas un rendez-vous précis.
Par contre, tu vas ça te remémorer un peu le contexte.
Ça va me permettre de retrouver du contexte.
D'accord.
Ensuite, j'ai un peu une section
fourre-tout,
maison. Ouais, fourre-tout un peu maison, la calculette, les machins, les trucs qui servent un peu moins. Alors, j'ai une section qui des apps qui coûtent cher, qui te coûtent cher à l'usage. Donc, tout ce qui est VTC, Félix, que j'aime bien, qui est en fait une sorte de Uber, mais du moto-taxi.
D'accord.
Donc quand tu enchaînes des meetings et que tu n'as pas vraiment le temps entre deux meetings,
la moto-taxi,
la moto-taxi c'est pas mal. Virtuo,
ouais, ça, c'est...
donc location de, location de voiture en ligne. Ouais. Après, tout un onglet un peu map, city mapper pour,
utilitaire.
Utilitaire. Là, j'ai tout un dossier. Alors là, c'est vraiment
la bureautique. City mapper, ça revient à chaque fois. C'est comme Virtuo, city mapper. Il y en avait une troisième aussi. C'est... On commence à avoir des grandes tendances.
Ouais. Après, il y a tout un outil, toute une partie un peu bureautique. Ouais. Donc Dropbox, Drive, avec les différentes applis.
Calendly.
Calendly.
C'est chouette ça.
Alors, je l'utilise beaucoup. Je ne pensais pas en parler sur la partie portable.
Ouais.
J'avoue que leur app, elle est très simple. Ça permet juste de récupérer surtout le lien Calendly en question. Et après, la vraie utilisation de Calendly, c'est au quotidien. Mais ouais, ça me fait gagner un temps de ouf.
Il y en a quelques-unes des applis maintenant qui sont sorties sur la programmation de rendez-vous avec un lien, tout ça. Moi, je suis sur Polymail, qui est une espèce de client mail que j'aime bien. Et dedans, ils ont une feature qui est exactement...
J'en ai testé pas mal.
Très proche de Calendly, quoi.
Ouais. Après, ce que j'aime bien avec Calendly, c'est que tu peux l'utiliser un peu partout.
Ouais.
Parce que, par exemple, en CRM, j'utilise Pipedrive. Et il y a un outil aussi de programmation de rendez-vous. Mais c'est un peu loqué que dans le contexte Pipedrive. Typiquement, quand on a échangé pour enregistrer ce podcast, et qu'on s'est appelé la première fois, je t'ai envoyé un lien Calendly, alors que pour le coup, ça aurait pas été dans Pipedrive.
C'est un peu plus hors écosystème du produit, quoi.
Ouais.
Enfin, en tout cas, je comprends.
Tu peux vraiment le mettre partout.
Un peu plus neutre,
Et je paye pour ça. Tu vois, c'est pas.
Ah bah oui,
As-tu
pris la version premium?
J'ai la version premium.
Ok.
Ensuite, le troisième onglet, des petites choses analytiques, Stripe.
Là, c'est l'entrepreneur qui parle, Fiverr.
Ouais, Fiverr et Upwork. Parfois, j'aime bien déléguer des tâches à des humains. et du coup, c'est deux services que j'aime bien utiliser pour des petites choses. Ça peut être la lecture d'un article, ça peut être même saisir des cartes de visite parce que tu as fait un salon, tu as X cartes de visite à saisir et à rentrer dans ton CRM. Ça, tu peux le faire du coup en quelques minutes avec ça.
C'est important pour toi de faire des batchs de tâches exécutables en série par quelqu'un d'autre que toi?
Ouais, j'essaye.
T'essayes, ouais. Dès que c'est quelque chose que tu peux déléguer à quelqu'un chez Fiverr.
Disons que passer une heure à saisir des cartes de visite, j'ai pas l'impression d'avoir une valeur ajoutée de ouf, et il vaut mieux que je passe 10 minutes à... Et
c'est une super reco, parce que finalement, elle paraît intuitive comme ça, mais je pense qu'on se lance tous dans notre boîte, on prend pas de hauteur sur les... on les fait, les tâches, et puis c'est comme ça qu'on se laisse déborder sur tout un tas de sujets. Alors qu'on pourrait se dire, on est en 2019, qu'est-ce qui me permet en un clic de déléguer des choses?
Ce qui m'a énormément fait prendre de recul là-dessus, c'est le fait de faire du freelance. Parce qu'en fait, quand tu fais du freelance, tu vends ton temps.
Ouais.
Et du coup, tout le temps que tu passes et que tu perds, tu te dis, mais en fait, là, j'aurais pu bosser pendant 2 heures, 3 heures ou autre pour un client.
Bah oui.
Et en fait, le seul truc qu'on puisse pas acheter aujourd'hui, on va dire directement acheter aujourd'hui, c'est le temps.
Oui.
Tu peux acheter plein de choses, tu peux.
C'est sûr.
Mais aujourd'hui, même Warren Buffett ou Bill Gates, ils ne peuvent pas s'acheter une journée en plus par mois. En revanche, tu peux t'acheter de la productivité.
Ouais.
C'est-à-dire que tu peux t'acheter le fait de bosser, de pouvoir te concentrer sur des tâches qui ont plus de valeur ajoutée et d'éviter de celles.
Te libérer du temps.
Ouais. Donc c'est vraiment l'idée. Là, j'ai un dossier social, un peu, où il y a un petit peu toutes les choses sociales, mais même, pas que, parce qu'en fait, je dois le ranger un peu dedans. Bah, Shaper, c'est comme ça qu'on a été mis en relation.
C'est comme ça, ouais.
Donc, Shaper, c'est un Tinder de la rencontre professionnelle. En gros, tous les jours, on nous propose, je crois que c'est une quinzaine de profils
bien intéressant,
différents, et du coup, ça permet de connecter avec des gens avec lesquels tu ne serais pas forcément rentré en contact.
Mais oui, c'est hyper efficace. C'est marrant parce que moi, quand ça a été lancé il y a quoi, 2-3 ans.
Ouais.
Par
Ludovic Huro.
Ouais, qui avait lancé déjà quelque chose un peu avant.
Il avait lancé Attractive World.
Ouais, voilà, Attractive World. Et bon, je me suis dit, le Tinder du Viadeo ou du LinkedIn. Et en fait, la valeur que ça apporte.
Ouais.
On la sent tout de suite. On la sent tout de suite parce que.
Moi je sais que je suis assez sélectif.
Enfin, les gens répondent derrière quoi.
Ouais.
C'est pas, quand il y a un match, j'ai 9 personnes sur 10 qui répondent.
Ouais. C'est, Ça, je suis d'accord. Mais en revanche, c'est vrai que j'ai tendance à être assez sélectif sur les personnes où je like, où je me dis, ah oui. S'il y a un match, j'ai vraiment envie d'échanger avec eux.
Ouais.
Et parfois, c'est pas le cas. Et... Alors, c'est pas que des personnes où j'ai envie de leur... à qui j'ai envie de rendre collecte, mais parfois, je me dis, enfin, on voit que la ficelle est grosse de l'autre côté. Le mec qui cherche à tout prix à se caser pour trouver un job, il n'a jamais fait de networking de sa vie et d'un seul coup il se met là-dessus. Bon, je dis pas que j'ai pas envie de l'aider pour, mais enfin à mon avis il faut que tu sois un peu sélectif et, et du coup je pense que je like une ou deux personnes par jour, pas plus parce qu'il faut enfin.
Ah, c'est un super outil de curation quoi. C'est.
Mais ouais, c'est vraiment très bien. Bon, LinkedIn.
C'est quand ça revient à chaque fois, hein. ça devient un outil majeur de prospection, de tout un tas de choses. Moi, ça revient à chaque fois. Ça devient. Il n'y a pas vraiment de concurrence quelque part. Il y avait Viadeo il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a une espèce de quasi-monopole sur le sujet.
Puis LinkedIn, c'est un réseau qui est intéressant parce que. Enfin, il y a trop de gens qui l'utilisent que quand ils en ont besoin. Alors là, je ne parle pas des SaaS, mais je parle. Je sais pas, pour plein d'autres fonctions, des gens qui vont aller une fois tous les deux mois, qui découvrent qu'ils ont 50 demandes d'amis, qui n'ont jamais rien posté. Mais quand on passe un peu de temps dedans, il y a vraiment des choses sympas. On peut se mettre en relation avec des gens. Et puis, après, un autre truc, c'est qu'il faut entretenir un peu son réseau. Donc, de temps en temps, c'est juste soit commenter ce que font les autres, soit essayer d'interagir avec eux.
Alors, j'ai juste un tips à donner que j'ai vu hier. Tu connais Gary Vee?
Ouais.
Alors Gary Vee, je mettrai un peu les références de qui c'est. C'est un espèce de gourou du marketing aux États-Unis qui sort pas mal de livres blancs, e-books sur comment être performant dans le sujet. Et il parlait de LinkedIn et une astuce qui est un peu bête, quoi, mais c'est de taper ce qu'on cherche dans le moteur de recherche en haut et de faire un filtre, non pas sur personne, emploi, mais sur contenu. Donc, en fait, je ne sais pas si je tape, je recherche un freelance sur tel sujet et que je dis je veux chercher cette phrase dans tous les contenus publiés par tout le monde, et ben c'est le cas. Enfin, ça affiche les contenus qui. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant parce qu'on tombe sur de la donnée très, très qualifiée. Et je l'ai essayé deux, trois fois, c'est très, très puissant. C'est trivial, mais ça marche très bien.
Je vais tester.
Ouais, je mettrai un peu la description du.
J'y avais jamais pensé. Ensuite, un autre dossier dans lequel je retrouve Product Hunt, qui est un service, plutôt une plateforme où il y a tous les nouveaux outils, toutes les nouvelles apps qu'on peut tester. J'avoue que ça, c'est un peu mon appli passe-temps. Enfin, alors, y a, à un moment donné, avec des amis, on avait entre guillemets. Donner une catégorie pour certaines apps qui étaient ce qu'on appelait des applis toilettes. C'est-à-dire les applis sur lesquelles
qui font que tu ne ressors pas.
que tout généralement quand tu es dans cette petite pièce. Et du coup, Product Hunt, c'est un peu le cas. C'est genre l'appli quand tu as 5 minutes dans ta journée que tu vas pas te lancer dans l'écoute d'un podcast ou je sais pas quoi.
The Water Closet apps dans lequel tu as 9gag dans lequel tu as
9gag et tout, j'ai arrêté de les
faut arrêter ça.
Ça apporte autant Product Hunt, il peut y avoir de l'info intéressante, autant 9gag se coucher moins bête ou autre. Maintenant j'essaie d'éviter de les voir. Il y a aussi Feedly.
Ah, ça existe encore, ça?
Que j'aime bien. Ouais, moi je m'en sers
comme Google, ça. C'était le RSS de Google,
non? Non, c'est une boîte indépendante, mais qui est une sorte de flux RSS, et du coup, ça me permet de voir des articles intéressants. Ouais. Et parfois, après, je les repose comme ça sur les réseaux sociaux. Enfin,
je pensais que ça avait disparu, non? Ça existe encore.
Ça existe encore. Après, un dossier banque avec toutes les néobanques, Alan et compagnie.
Ouais.
Étonnamment, le téléphone et l'email ne sont pas dans la barre en bas. Ils sont
C'est vrai, t'as le WhatsApp en bas à gauche, t'as pas les téléphones.
Exact. Ensuite j'ai le calendrier Chrome, enfin tous les, on va dire, les apps assez
Slack quand même dans les 4 applis majeures de par défaut tu la mets, quoi. T'as WhatsApp, Slack, Trello et Intercom,
c'est ça,
dans les 4 majeures que tu utilises finalement le plus souvent.
Ouais,
intéressant.
Ensuite, donc les slides que tu as cités tout à l'heure, Google Meet, parce que c'est quand même pratique de pouvoir lancer un call ou de le reprendre. Le CRM, donc j'utilise PipeDrive. Zoom, pareil.
Zoom,
j'utilise Zoom plutôt pour faire toutes les démos et tout, plus que Hangout. Donc je l'ai mis sur la home. Et j'ai une app que... Alors, c'est assez marrant parce que je l'ai installée, mais je ne l'utilise pas encore. Mais au moins, le fait de l'avoir sur la home, ça me rappelle à chaque fois que j'ai mon téléphone qu'un de ces quatre, il faut que je teste, qui s'appelle Bonjoro.
Bonjoro.
Alors, en gros, Bonjoro, c'est... Tu vas automatiser ton... une liste de personnes que tu as envie de contacter aujourd'hui. Alors, ça peut être de la prospection ou ça peut être, par exemple, dans une séquence d'onboarding sur Collect ou autre. Donc, il va falloir que tu alimentes cette liste. Donc, ça peut venir d'intercom, ça peut venir de tes mails, de ce que tu veux. Et derrière, en fait, cette liste, ça va te permettre en fait, d'enregistrer des petites vidéos. Je sais pas, ça peut être de 10 secondes jusqu'à 2 minutes pour chaque personne. Et donc, tu vas avoir dans ta liste, en fait, tu vois, par exemple, ça va me dire, OK, premier enregistrement, c'est Alexandre. Là, je vais appuyer, je vais enregistrer ma vidéo, je termine, je passe à la vidéo suivante et ensuite cette vidéo.
Ça, c'est des batchs de vidéos.
Ouais, comme ça, tu peux enregistrer, tu vois, genre 10, 15, 20 vidéos.
Ouais.
Je sais pas, le temps que tu as acheté ton pain ou que tu viennes au bureau. D'accord. En fait, tu enregistres ces vidéos qui sont vraiment personnalisées et derrière, tu vas les envoyer soit par email ou par un autre canal.
C'est un peu comme l'M-List, non, c'est pas ça?
Ouais. C'est un peu comme l'M-List.
Je ne connais pas très bien, mais j'avais compris que l'M-List...
Ouais, l'M-List ne te permet pas de les enregistrer une par une.
Ah d'accord, ok.
Mais l'idée, c'est un peu ça, c'est de créer ce contact qui, du coup, est différent pour l'utilisateur. Et ils se disent, waouh, c'est quand même cool. Le mec a pris la peine de m'enregistrer
une vidéo. Ouais. Donc, ça s'appelle
Bonjoro.
Bonjoro. Et c'est quoi? C'est français?
Je crois que c'est espagnol.
Espagnol, ah, ok.
Je suis pas sûr.
Ok.
Donc, voilà. Et ensuite, donc, dans la barre WhatsApp, Slack, Trello, que j'utilise énormément.
Ouais, encore, t'as pas switché sur Airtable ou je sais pas quoi.
J'arrive pas à être. Notion, enfin, je les ai essayés.
Il est malmené Trello en ce moment avec tout ce qui.
Ouais, mais pour moi, ça reste.
Ouais, ça reste. Alors,
j'ai pas le même usage d'un. Airtable, je le trouve trop lent.
Ok.
Par rapport à Trello. Enfin, Trello en plus.
En synchronisation de.
Non, ce que je veux dire, c'est à l'usage, par exemple, Trello, il y a plein de raccourcis clavier. Quand t'es sur l'ordi. Tu vas à une vitesse assez folle, c'est moins format, enfin c'est un truc un peu moins formaté que Cartable, donc je préfère.
D'accord.
Et après Notion, je le rapprocherais plus de Slide. Enfin.
Oui, c'est Notion beaucoup plus proche du knowledge management, de Slide et tout.
Mais du coup dans Trello j'arrive, enfin tout ce qui est roadmap, enfin tout, ouais, c'est vraiment.
Ça reste une petite référence.
Ouais.
Ok, super. Est-ce que tu peux nous parler des livres qui ont fait l'effet d'une bombe sur toi? Est-ce que tu as ce genre de comportement de lecteur qui lit, qui a des révélations quand il lit? Ça peut être des articles, ça peut être des choses.
Je lis pas mal, alors par période.
Okay.
Là, en ce moment, j'avoue que j'ai un peu moins le temps de, lire.
Mm-hmm.
Mais oui, il y a pas mal de livres qui m'ont marqué. Le livre... Alors... c'est pas un livre qui m'a pas un livre qui m'a marqué, mais plutôt un livre que je recommanderais.
Ouais.
C'est un peu différent. S'il y avait un livre que j'aurais dû écrire, ça aurait été celui-là. Je vais même plutôt le dire dans ce sens-là. C'est La 25e heure.
Mm-hmm.
Donc, La 25e heure, c'est un livre qui parle de productivité, comment optimiser certains process, quels outils utiliser. Enfin, je pense, par rapport à ce qui nous réunit aujourd'hui, ça peut intéresser tes auditeurs. Dedans il y a plein de conseils sur je sais pas, on a parlé de Calendly tout à l'heure, c'est le genre d'outil qui est recommandé dedans, pourquoi c'est important d'automatiser ce type de process, qui est pas que dans les outils aussi, qui est dans la compréhension de l'importance de gérer son temps et de gérer sa charge mentale, enfin de toutes ces choses là. Donc c'est vraiment un bouquin très sympa, ça se lit facilement.
Il est important pour toi parce que tu as des conseils activables que tu as appliqués dans la foulée, en fait, c'est ça?
Alors, c'est pour ça que je dis, j'aurais pu l'écrire, c'est que je pense que 80-90% du bouquin, c'est des choses que je connaissais déjà.
Ouais.
Mais ce qui. Enfin, la semaine dernière, j'ai été assisté à un meet-up sur la productivité et sur le no-code, enfin tout le mouvement du no-code.
D'accord, ouais.
Et à un certain moment, ils ont cité. Des outils.
Ouais.
Et moi, ça me semblait un peu, on va dire, enfoncer des portes ouvertes. Mmh. Et pour autant, la plupart des personnes qui étaient dans la salle avaient l'air d'être surprises et de découvrir d'un seul coup qu'elle pouvait gagner un temps fou en fait en utilisant ces outils.
Ah, mais il y a une éducation technologique à faire, à refaire.
Et pourtant, on parle pas de. Enfin, on parle de gens qui souvent sont un peu dans le milieu start-up, sont pas forcément des seniors ou ce genre de choses. Donc, ce qui me paraît évident à moi va pas forcément paraître évident aux autres. Et du coup, la 25e heure, j'ai vraiment l'impression que ce bouquin rend accessible à quasiment tout le monde tous ces outils-là et du coup cette façon de travailler-là.
Ouais.
Donc c'est pour ça que je le recommanderais. Après, dans les autres bouquins qui m'ont beaucoup marqué, dans le SaaS, il y a Predictable Revenue.
D'accord.
Qui est un bouquin qui parle un peu de la vente, de la façon de vendre et d'organiser une équipe sales. Alors plus léger, mais dans le fond il y a quand même pas mal de choses justement sur la productivité. Il y a la semaine de 4 heures de Tim Ferriss.
Voilà, ouais, de Tim Ferriss. Ouais. Il y a bientôt celui de Jean de La Roche-Brochard là.
Je l'ai précommandé. J'ai hâte de voir ce qui va nous sortir.
Ouais.
Je regrette un peu de m'être réveillé un peu tard parce que j'aurais bien aimé qu'il parle de collecte dedans et je crois que c'était en bouclage avant que même l'outil sorte.
Ouais.
Mais bon, il va le rééditer, donc
une petite mise à jour.
Ouais, non, je suis sûr qu'il va bien, que ce livre-là va bien fonctionner.
Ah ouais.
Et après, il y a plein de bouquins. Moi, je suis un peu un lecteur. Enfin, je peux lire 3-4 bouquins en même temps.
Ouais.
Et parfois pas dans le bon ordre, dans le sens où je suis pas quelqu'un qui lit en séquentiel et qui, tant qu'il n'a pas terminé le bouquin d'avant, ne peut pas commencer le suivant. Moi, c'est, je sais pas, par rapport à ma boîte, je suis en train de bosser sur toutes mes actions marketing et penser tout mon plan marketing. Et d'un seul coup, je vais me plonger dans la lecture de 2 ou 3 bouquins en parallèle. Quoi. Et voilà, c'est un peu ma façon de fonctionner.
Et là, tu lances ta boîte, est-ce que tu es allé... Est-ce que tu es allé lire des bouquins sur How to Start a Startup ou...
Ouais, alors je...
Je pense qu'il y a énormément d'ouvrages sur le sujet. Finalement, les start-upers ne passent pas leur temps à lire ça parce qu'ils vont plus lire un bouquin sur Customer Acquisition.
Déjà, ça fait un petit bout de temps quand même que je suis, on va dire, dans cet univers-là.
Voilà, donc,
le playbook... Même si tu ne l'utilises pas tous les jours, tu commences à le connaître. Après, ça va être sur des choses qui vont être plus techniques.
Ouais,
où j'ai besoin de me documenter. Et puis, même par rapport à ce que tu viens de dire, il y a des bouquins qui ont été vrais à certains moments que je recommanderais moins maintenant. Enfin, il faut juste mettre les choses dans leur contexte. Lean Startup, ça a été écrit en 2009.
Mm.
C'est un moment où il y a eu peu de capitaux, même aux US.
Mm.
Et où du coup, c'était fini la grande période des startups où juste sur un business plan, tu pouvais lever des millions. Donc, il fallait être hyper rationnel et commencer à avoir un début de traction et beaucoup parler à ses clients avant de lancer et tout. Du coup, on va dire le message très très fort, c'était développer ce qu'on appelle un MVP, un Minimum Valuable Product, pour pouvoir tester ton concept.
Mm.
Sur le principe, c'est toujours vrai aujourd'hui. Et tu as intérêt à être en contact permanent avec tes clients.
Mmh.
Néanmoins, le niveau du MVP de 2009 et de 2019, ce n'est pas du tout le même.
Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, il y a des tonnes de startups qui se lancent, en France, mais partout dans le monde. Il y a une compétition qu'il n'y a jamais eu auparavant. Mmh. Donc concrètement, si tu lances ton produit, qu'il est hyper mal pensé, avec un design dégueulasse, ainsi de suite... tu ne vas pas valider grand-chose, en fait. Ou tu ne vas pas invalider grand-chose.
D'accord.
Et à mon sens, il faut aujourd'hui quand même, malgré tout, arriver avec un produit qui a un certain niveau pour que tu puisses tester des choses. Quoi.
Oui, parce que l'attente est différente. Enfin, il y a une culture aussi.
Tu parlais de Product Hunt tout à l'heure. Tu regardes les boîtes qui ont eu des gros lancements sur Product Hunt. Généralement, le produit il est pas mal, enfin il est pas si mal que ça. Et c'est très rare de voir un truc qui soit complètement dégueulasse qui d'un seul coup.
Le niveau d'exigence de tout le monde a augmenté de toute façon.
Ouais.
Ennui, UX, c'est Et donc, du coup, toi, ce que tu dis, c'est que, en gros, ça veut dire quoi? C'est en gros, il faut mettre les mains un peu dans le cambouis, coder soi-même, pas se satisfaire d'app existantes pour faire un espèce d'outil Frankenstein tout moche.
Ouais, tu peux faire. Et puis, il y a des façons de faire, même. Par exemple, tu regardes aujourd'hui ce que tu peux faire en no-code. Il y a des plateformes qui, par exemple, te permettent de faire du no-code, qui te permettent de lancer ça en quelques.
Tout ce qui est website builder, tous les.
Ouais, ou par exemple. Mince, je vais retrouver le nom. Par exemple, Bubble.
Bubble, si ouais.
Bubble qui permet quand même de sortir des choses qui sont assez poussées.
Oui. Alors, les website builder, pour expliquer un peu, c'est tous ces outils qui permettent en drag and drop de construire un site quasiment à la volée.
Ouais.
Et
avec Bubble, t'as quand même.
Mais Bubble, c'est plus. C'est
il y a quand même quelques jours de boulot avant de sortir quelque
ouais,
chose.
Ouais, c'est plus poussé quand même, Bubble. Ouais. Ouais.
Mais
il y a des workflows, je crois que tu peux.
Tu peux faire des workflows, tu peux faire. T'as un système d'authentification. Donc, par exemple, dans les website builder les plus connus, je sais pas, il y a Webflow. Quoique, avec Webflow, tu dois peut-être pouvoir le faire. Ouais. Mais enfin, dans certains website builder, généralement, c'est pour faire des sites vitrines. Ou éventuellement ouais, voilà. Un site de e-commerce. Mmh. Mais il n'y a pas vraiment la notion d'espace utilisateur. Dans les nouveaux outils, justement, donc je crois que c'est le cas de Webflow, mais c'est sûr, c'est le cas de Bubble, tu peux vraiment avoir la notion d'espace utilisateur, de création de compte, même d'inviter des tiers, ainsi de suite. Ouais, ça va assez loin.
Super intéressant. Et aujourd'hui, dans ton boulot, ton taf de founder, d'entrepreneur, est-ce que tu peux nous dire un peu les applications qui te servent un peu au quotidien en tant que CEO de Collect? On en a vu quelques-unes.
Alors il y en a beaucoup parce que comme je t'ai dit, je suis solo, donc je couvre, on va dire, aujourd'hui la plupart des fonctions de la boîte. Donc Trello en gestion de projet.
Ouais, okay.
Slide pour prendre Slide, donc pour prendre tout ce qui est notes. Enfin, un peu knowledge base, Intercom pour tout ce qui est customer support.
Ok.
À voir si je reste dessus. Je suis pas encore
convaincu. Ouais, il y en a d'autres, il y en a plein.
Ouais, il y en a plein, et puis en plus Intercom.
C'est cher.
Ouais. commence à avoir des plans qui piquent un peu. Donc, voilà. Je sais pas si le. Enfin, sur le papier, avoir une seule app qui fait tout, c'est plutôt cool. En plus, ils ont sorti vraiment des. Avec leur marketplace, ils ont sorti des choses qui sont très très chouettes. Mmh. Mais voilà, je suis pas sûr à 100%. Comme CRM, j'utilise Pipedrive. Pipedrive, j'en suis content, ça marche bien. C'est assez customisable. J'aurais peut-être pu prendre celle-ci, qui est une boîte française. Bon, il se trouve qu'en fait, étant seul et qu'il y a un peu un minimum de comptes à avoir sur celle-ci, c'était un peu surdimensionné. Mais dès qu'on est plusieurs, je trouve ils ont fait un bon boulot pour les dernières versions. Salesforce, honnêtement, tant qu'on n'est pas 10-15, c'est totalement surdimensionné, un peu comme Intercom, ça revient à payer très cher. C'est un très bon outil, mais. C'est un outil qui est bien quand tu as une grosse force de vente derrière.
Tes mails, tu les gères avec quoi?
Mes mails, je les gère avec Gmail.
Gmail, ouais.
Tout simplement.
Ok.
Enfin, Gmail et l'app, l'appli même mail qu'il y a sur Mac. Qui fait le job, ça me va bien. Il fut un temps où j'utilisais pas mal Front. Mais bon, étant seul en ce moment... Je reviendrai peut-être dessus plus tard, mais c'est quand même bien, surtout pour faire de la collaboration.
Oui.
Et parfois, tous les mails, tous mes mails collect, je les gère beaucoup dans Pipedrive aussi.
D'accord.
En fait, Pipedrive me sert un peu de boîte mail collect, parce que c'est là où c'est ce qui est connecté en direct.
D'accord.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outil? Donc, on a parlé de Calendly pour la gestion du.
Oui.
Pour la gestion du calendrier.
Et le calendrier en question?
Alors, le calendrier en question, le calendrier de. Enfin,
natif.
C'est
de...
natif, enfin, l'app plutôt,
ouais.
Native d'Apple,
ouais.
Même si derrière c'est relié au calendrier
ouais.
Google. Alors, à savoir que je suis un peu obligé de bidouiller. Enfin, c'est un truc, on va dire, c'est
Un personnage.
une amélioration qui est en cours. Parce que, en fait, quand je crée un rendez-vous directement depuis le calendrier, ça ne met pas de lien Hangout comme ça peut le faire quand on crée un nouvel événement depuis Google
Google
Calendar.
Calendar.
Alors, j'ai découvert un truc qui s'appelait les Google Scripts.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est des. En
Tweet.
fait, Google a fait une sorte de petite plateforme de développement où on peut mettre des scripts qui vont s'exécuter, par exemple, à chaque fois. Enfin, qui peuvent être triggés soit toutes les heures, soit en fonction de certaines choses. Et entre autres, on peut rajouter un lien vers Hangout, enfin bidouiller
D'accord.
un peu
Mais
la
t'es
gestion de
arrivé
son agenda avec
à
ça.
retrouver tes petits comme ça, quoi.
Ouais, j'ai pas encore fini, mais c'est
Ah.
en cours. Et du coup, c'est pour ça que c'est assez intéressant. C'est, en fait, on s'aperçoit que si tu sais coder, là, t'as vraiment
Ouais,
un
tu peux
panel de
te
choses devant toi
mettre hors de
qui
cours
est
beaucoup de
énorme,
choses et personnaliser, ouais, c'est sûr. Ouais. Alors moi, j'utilise un truc qui s'appelle Calendar 5 by Riddle.
ouais.
Alors, le nom est compliqué, mais je l'utilise parce que ça gère bien la synchronisation de plusieurs calendriers en même temps. Et puis, ça ennuie, c'est des carrés.
Ok.
Voilà, c'était juste pour.
Et ça existe aussi en desktop ou...
Ouais, oui, je crois, mais je ne l'ai pas téléchargé du coup.
Ok.
Le calendrier, c'est quand même une app majeure, quoi. Quand c'est bien foutu,
Ah
ça peut
bah,
régler beaucoup, beaucoup de
j'étais
problèmes.
un gros gros fan de Sunrise,
Ah ouais,
quasiment
ah.
dès le
Jean-Baptiste
premier.
aussi, qui était l'invité numéro 2, n'arrêtait pas de pleurer de la licence. Hein.
Ouais,
Ouais.
Sunrise, c'était vraiment l'app
Ouais.
géniale pour ça. Ils avaient une approche produit qui était vraiment excellente. Bah, tu vois, encore une fois, un anti-MVP. C'est-à-dire
Ouais.
qu'à aucun moment, il y a eu... Enfin,
Un coup d'essai, tout
le
d'un.
produit était tellement bien fini
Ouais, depuis le
que
début, quand
c'était
même.
pas du tout l'approche
Mais il y en a pas
MVP.
mal des dead products comme ça dont on pleure tous de la disparition. C'est entre ça, Bunker.
Bunker, j'ai jamais utilisé, mais ouais,
Ah bah,
c'est...
c'est quand on avait touché, on pouvait plus s'en séparer.
Ouais.
Heureusement qu'il y a des choses comme Canva aujourd'hui. Mais. Ouais, Sunrise, c'est. Donc tu utilisais
Ah
abondamment.
ouais, je l'utilisais beaucoup.
Ok, super. Bon, eh ben, Alex, je te remercie infiniment d'avoir vidé ton stack
Ben, merci beaucoup.
avec nous. Et je vous donne rendez-vous à tous pour un prochain épisode. N'hésitez pas à aller sur stackcast.com, laissez votre adresse email et je vous enverrai la liste des ressources citées pendant l'épisode en PDF. Voilà, merci.
Merci.